Une nuit de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lady Day, la diva, la voix, la lady du jazz, Billie Holiday, écrivait Sagan dans Avec mon meilleur souvenir, paru en 1984. Souvenir d'un voyage à New York, en 56, passé à écouter chanter son amie Billie. Cette année 84, au micro de France Culture et de Black and Blue, l'émission de jazz de Lucien Malson et Alain Gerbert, après les quelques minutes habituelles consacrées à l'actualité musicale de l'époque, l'écrivain raconte la chanteuse en musique.
Bonjour à tous, c'est Black & Blue Magazine. Ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles se souviennent peut-être qu'il y a quelques semaines, nous recevions devant ces mêmes micros, dans ce même studio, deux guitaristes, l'un était Pierre Culaz et l'autre Jean-Pierre Sasson, et avec Sasson, nous nous extasions devant une œuvre, une de ces œuvres trop rares, signée par Oscar Moore, qui, on s'en souvient, fut avec Irving Ashby, l'un des compagnons préférés de Nat King Cole, et l'un de ceux qui firent aussi le succès de ce merveilleux trio qui était celui du King au début des années 40. Assez curieusement, cet immense guitariste a signé très très peu de disques. Il en existe quelques plages sur Verve, nous en écoutions une lors de l'émission que j'évoquais tout à l'heure. Il existe un disque Tampa que l'on a vu apparaître en France très brièvement chez Pathé Marconi, je crois, il y a une dizaine d'années. Il a presque été aussitôt éliminé du catalogue et repoussé du côté des soldeurs. Et puis, assez curieusement, j'ai reçu, il y a quelques jours, venant je ne sais d'où, un album de Oscar Moore Trio. On ne dit pas du tout quels sont ses comparses pour ce disque. On ne sait pas quand ça a été enregistré, mais c'est un album tout à fait intéressant où il joue ses propres compositions, généralement en l'honneur de son ancien employeur. Des morceaux qu'ils ont tous deux contribué à rendre célèbres, comme Sweet Lorraine, et puis aussi quelques thèmes composés par d'autres musiciens, par exemple le célèbre Christmas Song de Mel Tormé. Je vous propose, écrit par Moore, et tiré de ce disque dont je vous donnerai tout à l'heure les références précises, I'll Remember You. Thank you. On ne sait quand, on ne sait où et on ne sait avec qui Oscar Moore à la guitare interprétait une de ses propres compositions, I'll Remember You, et le You, eh bien, c'était Nat Cole. Le disque en hommage au King s'appelle Afterglow et vous le trouverez au catalogue d'une marque dont je ne connais strictement rien, qui s'appelle Piccadilly, référence PIC 3372. Lucien, c'est à vous.
Oui, moi j'ai retenu un disque inédit, je dis cela parce que maintenant nous avons une troisième catégorie, il y avait autrefois les rééditions et les nouveautés, maintenant il y a les inédits, à savoir qu'en France on présente des disques qui n'avaient pas été à l'origine diffusés dans notre pays, d'autre part peut-être jamais nulle part présentés dans la conception qui est celle que nous avons ici sous les yeux. C'est un choix nouveau de plage enregistré entre 1952 et 1954 par Shorty Rogers et ses géants. Il y a en effet des titans chez le petit Roger, Jimmy Giuffrie, Zoot Sims, Bud Shank, Lenny House, Pete Jolly, Barney Kessel, Curtis Carnes, Shelly Man et j'en passe. Alors c'est le disque West Coast par excellence parce que il a toutes les qualités, tous les défauts à mes oreilles de la West Coast. Pour les défauts, je citerai la musique de cinéma mais sans les images. C'est par exemple...
C'est la musique de L'Équipe est sauvage,
oui.
Blues... Pas n'importe quel cinéma, quand
bien
même.
Sûr, mais seulement on n'a pas les images. Alors c'est Blues for Brando. Hein. Et pour les qualités, ce que j'ai choisi, Cool Sunshine, eh bien, ce sont toutes les perfections de la West Coast réunies, solos impeccables, mise en place superbe, swing constant et avec le recul du temps et beaucoup d'abandon dans le domaine du swing. C'est une plage qui est une source rafraîchissante au milieu d'un désert. Alors voici Cool Sunshine. Nous recevons ce matin Jean-Luc Backhausen, qui est critique de jazz au Figaro et qui accomplit un très bon travail. Je parle en professionnel quand je dis cela, parce que je voudrais d'abord le remercier pour nous tous de faire les rendez-vous du jazz et du rock, du reste, toutes les semaines. C'est un papier difficile à faire, j'en parle en connaissance de cause. Il s'agit d'indiquer les jours exacts où les concerts ont lieu. Dans le jazz, ils sont souvent annulés au dernier moment, donc il faut se tenir toujours prêt à rectifier pour ne pas induire en erreur les lecteurs. Il y a une toute petite explication, juste ce qu'il faut pour ne pas se tromper quand on est conscient de ses propres goûts. Et d'autre part, c'est tenu très à jour. Il doit avoir des chemises spéciales pour préparer ça, Jean-Luc Backhausen. C'est très bien fait, ça rend service à tout le monde. Alors ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, il fait des avant-papiers pédagogiques, je dirais, comme par exemple Peterson, le colosse aux mains d'or. Ça, c'était un papier avant que le concert ait lieu à Pleyel. Je parle des papiers récents, bien entendu. Puis, des chroniques de concerts. Backhausen se déplace, a des impressions, regarde la foule réagir, nous en fait part. Ça, c'est de l'information. Ça fait partie aussi de la critique. Et je pense à Corde au sommet de Didier Lockwood, Christian Escoudé, Philippe Catherine.
Oui, c'est leur premier concert au Théâtre de l'Est parisien il y a déjà 3 mois.
Et puis je vois aussi le Choc du futur, compte rendu d'un concert de Herbie Hancock qui est du jazz rock, c'est ce que vous avez mis en titre.
Ouais.
Enfin, vous assumez ce qui se passe et vous n'avez pas d'exclusive. En effet, je vois aussi un article sur le Golden Gate Quartet. Happy birthday.
Oui, pour leur anniversaire à l'Olympia. En fait, bon, j'essaye de faire tout simplement un métier d'informateur, mon métier, donc, et de donner tous les jeudis dans le journal, dans le Figaro, des rendez-vous précis sur les concerts de jazz. Je me mets un petit peu à la place des gens qui veulent sortir dans la semaine et qui se disent qu'est-ce qui peut se passer cette semaine au Petit Journal, au Sunset, à la Chapelle des Lombards, au Philoane ou au New Morning, par exemple. Et j'essaie de leur donner des rendez-vous précis.
Alors, d'autre part, vous avez enterré Bézi, comme tout le monde. Ce n'est pas une tâche facile, bien entendu. On n'écrit jamais ça le cœur content. Mais vous l'avez fait. Donc, au fond, je trouve que cette chronique de Jean-Luc Backhausen couvre à peu près l'étendue des informations qui sont à même de nous tenir en haleine à propos du jazz. C'est un effort considérable.
Ce qui nous manque un petit peu, bon, dans le journal, bon, faute de place, parce que malheureusement dans une page spectacle, il n'y a pas seulement que la musique, mais il y a aussi le théâtre, le cinéma, la danse, le café-théâtre, etc. Il nous manque un petit peu des chroniques de disques que j'en faisais il y a quelques années.
Vous n'en faites plus.
Et là, on en fait un peu moins. On essaye de retrouver de la place, mais malheureusement, on est tous dans le même cas, on se bat pour la place.
Oui, mais alors là, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans la presse nationale. C'est justement le souci de faire passer avant les disques les concerts. Moi, je n'ai rien contre les concerts, je pense que c'est une activité très importante, mais il faut dire que le concert, ça concerne qui ? Quand vous faites une chronique, ça concerne éventuellement les gens qui y sont allés, c'est-à-dire, mettons 2000 personnes, si c'est à Pleyel. Alors, ils lisent votre compte-rendu, puis ils sont d'accord ou pas d'accord, ça les amuse de voir ce que vous avez pensé, de ce que le critique peut penser du concert auquel ils ont assisté. Bon, les autres, ils sont contents de savoir qu'il y a eu un concert et que les gens ont applaudi à tel moment. Mais eux, ils n'y ont pas participé. En revanche, un disque est un événement qui concerne tout le monde.
C'est vrai.
Puisque tout le monde peut acheter un disque, à condition, bien entendu, d'avoir l'argent pour le faire. Mais c'est vrai aussi pour le concert, dont l'objection tombe. Alors, moi, je crois que le disque, c'est un événement considérable.
Ce qui est bien, c'est quand c'est le complément indispensable du concert.
Voilà.
Ce qui nous permet, bon, de parler des deux. Mais il est certain, par exemple, que, enfin, je sais pas, la politique de la page spectacle au Figaro, c'est de plutôt aider les salles de spectacle.
Oui, mais ça, ils ont raison de le faire. Mais
dans la mesure où, bon, les concerts de jazz,
les deux, quand
absolument.
Même, hein. On peut aussi aider les disques à se vendre, parce que les musiciens, je pense aux musiciens français, se plaignent beaucoup du fait qu'on parle pas de leurs disques et que dans cette mesure, ils ne les vendent pas. Or, quand ils ne vendent pas leurs disques, eh bien, ils ont des difficultés à boucler les fins de mois. Alors
absolument.
Tout ça, au fond, vous savez, c'est le même bateau. Hein. Puisque nous parlons de chronique de disques et que j'espère pour vous que vous en ferez plus souvent, vous avez peut-être choisi un disque cette semaine qui vous plaît.
Oui, j'ai apporté le nouveau disque de Charlie Rose, le Charlie Rose Quartet. Et je voulais vous faire écouter un thème qui s'appelle « If I Should Lose You ». C'est un thème de Charlie Rose.
Et c'est bon.
Et c'est très bon.
Je trouve
que Charlie Rose, enfin, d'ailleurs Charlie Rose, je l'ai découvert les dernières à la Grande Parade du Jazz de Nice. Et j'ai trouvé que son quartet était extraordinaire, qu'il avait une sonorité formidable.
Vous mangez toujours des beignets aux fleurs à Nice ?
De temps en temps, oui.
Vous avez bien raison.
On écoute Shirley Rose.
C'est que François Sagan a publié chez Gallimard récemment des mémoires, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi, mais enfin disons qu'il n'y a peut-être pas de terme pour désigner exactement ce livre. Le titre en est « Avec mon meilleur souvenir ». Alors nous avons, Alain Gerber et moi, beaucoup d'admiration et d'amitié pour François Sagan. Mais nous avons surtout saisi l'occasion qui nous était offerte par le premier chapitre de ce livre, qui est consacré à Billie Holiday, pour demander à François Sagan de venir à Black and Blue. Alors, Alain Gerber a préparé quelques questions.
Préparé de questions, non.
Mais vous en avez dans votre tête, en tout cas.
Je m'en suis en tout cas posé une en lisant ce livre. C'est est-ce que j'allais ou non écrire à François Sagan ? C'est rare pour moi d'écrire aux écrivains. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire. Vous savez, un des textes s'appelle « Lettre d'amour à Jean-Paul Sartre ». Et ceux qui nous écoutent savent quelle admiration, mais quelle admiration affectueuse nous portons l'un comme l'autre à Jean-Paul Sartre. Et moi, je me suis demandé si, tout grand benêt que j'étais, j'allais pas écrire une sorte de lettre d'amour à François Sagan à propos de ce livre. Parce que dans ce livre, j'ai trouvé beaucoup de mes propres secrets, et non pas divulgués et encore moins trahis, mais déposés là de telle manière que l'énigme, me semble-t-il, s'en trouve encore mieux nouée. Bon, ces secrets, quels sont-ils ? On a cité Billie Holiday. Bon, pour moi, la rencontre avec Billie Holiday a été déterminante en ce qui concerne ma rencontre avec le jazz tout entier. Et ça reste quelqu'un qui m'est absolument essentiel. La rencontre avec Sartre, si Sartre n'avait pas existé, il est probable que jamais je n'aurais essayé, il y a quelques années déjà, d'être professeur de philosophie et d'exercer, comme vous, Lucien, cette honorable profession. J'ai passé le concours de l'IDEC, il y a aussi de cela un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que j'avais vu, quand j'avais 16 ans, un film qui s'appelait Citizen Kane, Orson Welles. Et il y a un chapitre aussi consacré à Orson Welles. La première fois que j'ai écouté, c'était à la radio, une émission qui s'appelait Le Théâtre aux mots. Une pièce de théâtre qui ne soit ni du théâtre classique, ni du théâtre de boulevard, c'était La Ménagerie de verre de Tennessee Williams. Tennessee Williams est une des têtes de chapitre dans Avec mon meilleur souvenir. Et puis, il y a aussi là-dedans quelqu'un encore peut-être plus cher à mon cœur. Alors là, je dirais, ça me fait presque de la peine de voir quelqu'un d'autre en parler, parce que j'aurais voulu la garder pour moi tout seul. Enfin, j'exagère un peu. Il s'agit de Carson McCullers, qui est un auteur chez qui il y a toutes les fêlures du monde, et sans qui, très certainement, je n'écrirais pas. Sans qui aussi, et la remarque vaut évidemment pour Proust et Rimbaud, cité dans ce livre, j'écrirais mieux, je veux dire plus facilement, parce que ces gens-là, évidemment, me terrorise un peu chaque fois que je prends la plume. C'est ce que François Sagan dit aussi très bien. Il y a des pages admirables sur la pratique de la littérature à la fin de ce livre et sur Proust. À propos de pages admirables, je voulais dire aussi qu'il y a effectivement des pages qui me semblent être des modèles d'écriture. Il y en a beaucoup, un peu partout à travers l'ouvrage. Et il y a en particulier tout un chapitre consacré à Saint-Tropez, endroit que j'exècre.
Que j'ai beaucoup aimé quand il n'y avait pas de monde, moi, autrefois.
Oui, moi, j'ai pas connu, j'ai pas eu cette chance, qui sont absolument extraordinaires, avec en particulier un dernier paragraphe que j'aimerais lire, parce que là aussi, il y a Carson McCullers, il y a toutes les fêlures, il y a Billie Holiday, il y a tout ce que j'aime dans la vie, parce que c'est si beau et si douloureux à la fois. Voilà ce paragraphe. Ce n'est pas que ce soit si important. Le soleil est là dans la paume de ma main et je tends machinalement cette paume vers lui, mais sans la refermer. Pas plus qu'on ne doit essayer de garder le temps et l'amour, on ne doit tenter de garder ni le soleil ni la vie. Je descends vers des gens qui rient, des gens qui oublient, des gens prêts à repartir vers un ailleurs, un n'importe où, mais un ailleurs qui ressemblerait à ici, ou qui tenterait d'y ressembler et qui n'y arriverait jamais tout à fait.
But it's funny now and then how my thoughts go flashing back again to my old flame. My old flame. My new lovers all seem so tame, for I haven't met a gent so magnificent or elegant as my old flame. I've met so many men with fascinating ways, a fascinating gaze in their eyes, some who set me up to the sky, but their attempts at love were only imitations of my own flame. I can't even think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my own flame. up to the sky. But there of him said love were only imitations of my old flame. I can't even think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my old flame.
Une certaine détresse, c'était Billie Holiday dans My Old Flame. Alors je voulais préciser quelque chose tout à l'heure. Je disais que ce livre recoupait quelques-uns de mes secrets les mieux gardés. J'entends par là que je les garderai jusqu'à la fin de mon existence. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il recoupe en fait les secrets de tout un tas de polichinelles de par le monde. C'est extraordinaire. Moi, j'arrête pas de rencontrer des gens. Je leur parle de ce livre et tout le monde s'y retrouve. Je pense en fait que c'est vraiment le livre d'une génération très vaste. Des gens qui ont entre 30 et 60 ans. Beaucoup de gens s'y retrouveront, et peut-être même d'ailleurs en deçà et au-delà de ces seuils. En plus, j'aime bien ce que les gens m'en disent, parce qu'à un moment ou un autre de la conversation, il arrive toujours, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, Lucien, que quelqu'un dise « Ah oui, surtout, c'est sympathique », mais ils ne le disent pas du tout comme on le lit d'habitude. D'habitude, on dit « Oui, c'est sympathique », c'est très condescendant.
C'est intéressant.
Pas du tout ça. Oui, c'est ça, c'est exactement
ça, c'est une
le contraire.
Terrible.
C'est-à-dire, quelqu'un s'étant exposé, s'étant minu dans ce livre, il en reste sympathique, ouais. Et c'est quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Et ça, je crois, c'est très rare. C'est merveilleux qu'il puisse rester ça.
Et moi, je me permettrai d'entamer la conversation, pour ma part, avec Françoise Sagan, en lui disant, puisque nous avons dit notre estime pour Sartre, autre chose qui m'a beaucoup touché dans ce livre, cette lettre d'amour à Jean-Paul Sartre, c'est que vous le défendez contre des gens qui, vers la fin de sa vie, pensaient que, en définitive, c'était un homme diminué et qui avait perdu toute lucidité.
En fait, je crois que les gens qui ont dit du mal de lui à la fin de sa vie s'attaquaient beaucoup, de pouvoir s'attaquer vraiment à son cerveau, qui était parfaitement intact. Il s'appliquait à faire des descriptions de lui. Sur le plan physique, il était absolument infect, dans le genre qu'il était couvert de riz, qui renversait tout, enfin, comme quelqu'un de gâteux, en fait. Alors, et comme tout homme aveugle, il était très maladroit, effectivement, il renversait des choses sur ses vêtements. Et ça n'avait strictement aucune importance. Et ce qui m'a horrifié, c'est ce tableau d'un homme déchu, couvert de riz, de choses, comme une espèce d'idole qui brusquement se révélerait incapable de se comporter. Je pense notamment à un livre d'Olivier Todd, qui était sur la mort du père, qui m'avait spécialement horrifié à ce sujet. Mais l'esprit était absolument vif et gai et allègre. Il n'y a pas le moindre problème à ce sujet.
Alors, si je parle de Jean-Paul Sartre, c'est parce que vous en parlez vous-même, mais c'est aussi parce que, signalons-le, une fois de plus, c'est quand même un homme qui a su aimer le jazz. Ça n'a pas été un très grand connaisseur de jazz, mais il aimait le jazz. Ça a été parmi les grands écrivains français, un des rares qui ait parlé du jazz, il faut bien le dire. La nausée, Summer of His Day, est un hommage au jazz, en définitive. Hein. Et ça, je crois que ça nous ramène à notre propos de ce matin, puisque nous allons parler du jazz avec vous, et notamment à propos de Billie Holiday.
But before I'll be your dog, walked about myself, but then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many, but I had a long, long ways to go.
Billie Holiday. Alors, nous allons parler de Billie Holiday, mais de tout le jazz, peut-être. Vous avez, puisque Gerbert le rappelait tout à l'heure, un âge qui vous a permis de connaître tout au moins la fin de Saint-Germain-des-Prés.
Mm-hmm.
Vous avez fréquenté le jazz à cette époque-là. Alors, la question que je vous poserai, quel musicien aimiez-vous à l'époque? Qu'écoutiez-vous?
Comme tous les gens de mon âge, on dansait sur les airs de Sidney Bechet, sur Atu Kalfar, etc. Et tous les après-midi, au lieu d'aller à la Sorbonne, j'allais au club Revue Colombier, écouter, danser, alors ça de manière plus agitée, avec André Réveillotti.
Ah oui, Réveillotti, oui.
Je parle de musique purement pour moi, si je veux, oui, mais... quotidienne. Autrement, j'aimais tout. J'aimais tous les Fitzgerald, Cole Porter, tous les Cole Porter. Enfin,
vous savez qu'à l'époque, il y avait une guerre du jazz, vous savez.
Oui, il y avait la...
Il y avait la guerre du bebop contre bebop, le Nouvelle-Orléans.
Oui, moi j'étais Nouvelle-Orléans.
Vous étiez Nouvelle-Orléans.
Oui, oui. J'ai contracté là une passion qui ne m'a jamais quittée pour Fats Waller, que j'aime toujours autant d'ailleurs.
Vous avez raison.
Et puis, autrement, j'ai passé par Charlie Parker, par Miles Davis, par des choses classiques, tout à fait classiques, du jazz.
Est-ce que vous en écoutez toujours?
Oui, oui, bien sûr. Fats Waller, beaucoup, justement.
Beaucoup, oui. Vous avez de quoi d'ailleurs, parce qu'ils ont édité pratiquement l'œuvre complète.
Ils ont tout réimprimé.
Oui, oui. Oui.
Des choses de vie, des paroles sublimes, en fait, qu'on n'écoute jamais, des paroles absolument
très drôles.
Désopilantes. Oui, très drôles.
Vous précisez que vous n'aimez pas seulement le jazz, mais beaucoup d'autres choses dans la musique, beaucoup d'autres formes de musique.
Oh, oui, bien sûr, j'aime beaucoup la musique classique aussi, j'aime beaucoup l'opéra. L'opéra le plus facile, j'aime l'opéra de Verdi, je veux comme ça, les grands opéras comme ça, très, très, très romanesques, les opéras difficiles, je suis capable.
Oui. Raymond Queneau disait quelque chose comme ça. J'aime Verdi comme ça simplement, je n'y connais rien.
En plus, je n'y connais rien d'ailleurs. Je ne connais pas grand-chose, mais j'ai des passions pour des opéras, les uns après les autres.
Alors, nous n'avons pas de morceaux d'opéra à passer ce matin, en demeurant, ce n'est pas notre tâche ici. Il ne faut pas piétiner les platements des autres. Nous passerons que du jazz. Enfin, nous ne crachons sur rien.
Voilà. Oui, dans ce texte sur Billie Holiday, nous y viendrons. Vous arrivez à New York avec Michel Magne et vous demandez, vous exigez Billie Holiday. Mais avant, qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-ce que vous aviez rencontré la musique de Billie Holiday?
Comment? Je devais avoir 14, 15 ans, 16 ans et j'avais dû acheter un disque d'elle. C'était le moment où on traînait j'ai tous les marchands de disques à empoisonner les vendeuses, parce qu'on n'avait pas tellement d'argent pour acheter des disques. L'argent de poche était beaucoup moins répandu dans ma génération que dans celle de maintenant. Et on écoutait 45 disques, des vendeuses excédées, pour finalement partir en achetant la moitié d'un, on faisait insulter. Enfin bref, j'avais entendu une fois un magasin qui était à une vagramme, Stormy Weather, je crois. Et la voix m'avait saisi. Je n'avais eu de cesse d'acheter un disque d'elle. Et puis j'avais commencé par les disques classiques avec Barney Kessel, Charlie Shavers, etc.
Disque vert. Mais c'est très intéressant parce que beaucoup d'amateurs, dans le premier contact, se sont sentis rejetés par Billie Holiday. Souvent, c'est une conquête assez tardive. Et moi, je sais que beaucoup de gens qui sont parmi nos amis disent « En fait, moi, j'ai d'abord écouté Billie Holiday parce qu'il y avait avec elle les plus grands, Lester Young, Roy Eldridge, Ben Webster et beaucoup d'autres. » Et puis, je crois qu'il y a un véritable déclic qui se fait. Alors, certainement que dans votre cas, et ça c'était aussi le cas de beaucoup de personnes, le déclic s'est fait instantanément et tout de suite, mais ça, oui. On ne peut pas s'en passer. Enfin, dans le jazz, parmi les vocalistes de jazz, il y a Billie Holiday, il y a les autres. Enfin, c'est deux oui, univers. Elle est un univers à elle toute seule, enfin, me semble-t-il.
Si on peut dire, c'est le côté piaf du jazz, enfin, c'est vous brise le cœur, quoi.
C'est moi, c'est le côté piaf du jazz avec.
Enfin, oui, j'entends dans le sens.
Oui, je comprends très bien comment vous le dites.
La chair de poule.
Bien que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a une voix, au fond, très calme, elle n'a pas d'éclat ou juste ce qu'il faut. Et un tout petit registre d'ailleurs.
Oui, moi je parle uniquement de l'effet physique que ça fait, la chair de poule, de frisson, et surtout quelque chose qui se déchire, quelqu'un qui se déchire en chantant, je sais pas.
Ah oui, mais c'est d'autant plus sensible quand on ne l'entend plus et qu'une autre personne chante ses chansons.
Oui,
ça, c'est absolument effroyable. C'est une épreuve pour nous.
Mais ce qui est très intéressant avec elle, c'est que la fêlure qui est là, elle n'est jamais dite. C'est-à-dire que le plus souvent, elle chante des chansons dont les paroles sont à peu près indifférentes. Très, très souvent, des chansonnettes de Broadway. C'est rare. Il arrive qu'elle chante des choses tristes, en particulier dans cette chanson dont elle a écrit elle-même les paroles qui s'appelle God Bless the Child. Mais c'est, bon, il y a Strange Fraud que tout le monde connaît, mais c'est assez rare. Le plus souvent, c'est des chansonnettes de Broadway. Et pourtant, on écoute ça et c'est désespéré. Oui. C'est aussi désespéré que le dernier paragraphe de Gatsby le Magnifique, par exemple.
Oui, à peu près.
Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui d'année en année s'enfuit devant nous.
My sweet Emma.
C'est donc Billie Holiday qui chantait Embraceable You. C'est un extrait des fameuses séances Commodore. Je ne peux pas m'empêcher de poser cette question du rapport entre l'écriture et la musique. Elle s'impose avec vous, parce que je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, mais c'est à propos de vous, me semble-t-il, qu'on a lancé cette idée de petite musique.
Oh,
bon,
oui.
Que moi je déteste, parce que j'ai toujours envie de dire pourquoi pas la grande. Non, mais est-ce qu'il y a un rapport étroit pour vous entre l'écriture et la musique? Est-ce que vous nourrissez de musique pour écrire? Est-ce que vos phrases sont conçues musicalement? On dit souvent qu'il y a plusieurs sortes d'auteurs, les uns procédant picturalement ou architecturalement, et les autres étant au contraire plutôt des musiciens. Ce qui, moi, me semble être votre cas. Mais vous êtes peut-être de ces auteurs qui, par exemple, ne veulent surtout pas de musique quand ils écrivent.
Non, en fait, je ne veux pas de musique quand j'écris, parce que la musique, je l'écoute. J'ai horreur des fonds musicaux. Je suis incapable d'avoir un fond musical chez moi, et ou les musiques je les écoute ou je les écoute pas du tout, quoi. Mais j'aime pas entendre la musique sans l'écouter. Quand j'écris, j'écris pas de la musique. J'adore la musique, je m'en nourris beaucoup, j'en mets tout le temps, surtout la nuit d'ailleurs. Ça a peut-être un rapport avec la littérature, en ce sens que les phrases, quand on écrit, il faut pouvoir dire sa phrase à voix haute, et on dit talala, 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 talala. Et s'il manque un pied comme en musique, c'est que la phrase est mal fichue. Il faut changer un adjectif, il faut changer, inverser quelque chose, parce qu'il manque un pied comme en musique. Et je crois que c'est le rapport le plus précis qu'on puisse.
Oui. Claude Lévi-Strauss prétend, lui, qu'il ne peut pas écrire sans musique, qu'il a une oreille pour la musique, parfaitement attentive, et ses yeux, et éventuellement une autre oreille s'il parle à haute voix ce qu'il écrit, et qu'il peut faire les deux à la fois. Ça m'a toujours beaucoup stupéfié, mais je sais qu'il a ceci de commun avec mon ami Alain Gerbert, qui procède de la même façon. Il écrit ses romans en écoutant de la musique. Moi, je suis incapable, je suis comme vous, François de Sagan, je suis incapable de faire les deux choses à la fois.
Bon, moi, je ne peux pas écrire sans musique, et en plus, sachant à peu près ce que j'ai à écrire, dans une période de travail déterminée, je choisis mes disques en fonction de ça. Mais je crois que c'est qu'on retrouve au niveau des écrivains un peu ce qu'on avait trouvé au niveau des comédiens avec le fameux paradoxe de Diderot. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles, ou bien vous admettez que pour votre contrôle, il faut que vous soyez le plus possible détaché des sentiments ou des émotions que vous essayez de faire passer, ou bien vous faites de l'acteur studio et vous pensez au contraire qu'il faut être tout à fait dedans.
Oui.
Moi, j'avoue que jusqu'à une période très récente, il fallait que je me crée, au besoin artificiellement, d'ailleurs, pourquoi ne pas le dire, des émotions pour rentrer dedans. Et puis on change, vous savez. Bon, avant, je ne pouvais pas du tout écrire à la main. Maintenant, je commence. J'ai appris à écrire en même temps que la machine. Je veux dire que la machine, d'abord parce qu'avec la machine, je me sentais plus écrivain américain, comme c'était mon délire. C'était ça qui m'intéressait. Et puis aussi parce qu'avec la machine, la phrase est déjà précomposée. Vous avez déjà, quand vous avez 16 ans, c'est formidable, parce que vous avez déjà presque un livre qui est là devant vous.
Et vous, alors, François Sagan,
les pages.
La machine.
La machine, oui, d'une part, ce côté précomposé qui est rassurant. On n'a pas à relire ces griffouillages effrayants qu'on fait. Et puis, d'autre part, quand on tape à la machine comme moi, c'est-à-dire très mal, deux doigts d'une main et trois de l'autre, on a tendance instinctivement à faire des phrases les plus brèves possibles. Et ça donne un style plus concis, peut-être inconsciemment.
Mais vous travaillez à la machine directement ou vous reproduisez à la machine
tout,
ce que vous avez déjà préparé?
Je fais tout, j'écris la main dans mon lit, je tape un peu la machine, je dicte directement aussi, je fais un peu tout, j'ai pas de système précis.
Vous dictez au magnétophone?
Non, pas au magnétophone, ça je peux pas, ça me fait rire, ma propre voix me fait rire. Non, je dicte à quelqu'un.
Vous n'écouterez pas l'émission alors?
Oh,
vous ne l'enregistrez pas au magnétophone pour l'entendre en nous?
Non, mais m'entendre dire sur le magnétophone, elle ouvre la porte et lui dit, ça me fait tort de rire, ça je peux pas.
C'est très intéressant ce que vous
moi
dites.
Moi aussi.
Une des raisons qui ont fait que Sartre s'est arrêté d'écrire, c'est que justement, il était incapable d'entrer
de
dans un système de dictée qui faisait qu'il ne pouvait pas revenir instantanément
arrière. Il ne peut pas se relire et revoir sa phrase.
Oui, mais c'est ça.
C'est ça qu'il ne peut pas la revoir en entier, donc ça l'empêchait d'écrire.
Oui.
On a beaucoup parlé de ça, mais il n'y a pas de solution.
Mais est-ce que ça vous intéresse justement les gens qui ont essayé, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin il y a entre autres Jacques Kerouac, de faire avec la littérature l'équivalent de ce que certains jazzmen ont pu faire avec la musique?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire la spontanéité pure, dans une grande coulée verbale. C'est-à-dire le lyrisme à la Melville, mais dans la spontanéité, et à coup de benzédrine, enfin, accessoirement.
Pas benzédrine, mais enfin, comme ça s'appelle les quelques adjus de vent qu'on peut trouver, mais oui, bien sûr. Ça, on écrit, toujours un moment, quand on écrit, on est lancé comme un cheval emballé, et on suit ce qu'on dit. On ne compose plus, on ne fait que suivre ce qu'on écrit, quoi.
Donc il y a forcément là aussi une musique intérieure. Musique intérieure,
et... oui, il y a les chevaux sont lâchés.
À propos de petite musique, on a parlé de jazzmen qui tous ont quelque chose à cause de cette fêlure de confidentiel. Mais est-ce que vous aimez aussi les grands orchestres, le jazz un peu spectaculaire finalement?
J'aime moins, mais j'aime bien. Et Duke Ellington, j'adore, etc. Mais j'aime mieux les petits.
Canbezi, vous aimez?
Canbezi, j'aimais bien aussi, mais ça c'est moins émouvant pour moi.
Quelle attitude avez-vous à l'égard du jazz qui se fait aujourd'hui, notamment du jazz de Herbie Hancock, des choses comme ça?
Je connais très mal. Et oui.
Ce qu'on appelle le jazz rock.
Je le connais par mon fils qui a des disques.
Oui, je doute.
J'avoue que j'ai plutôt tendance à fuir quoi, ça. Il met extrêmement fort, comme toute cette génération, mais tout ça est extrêmement fort. Et j'ai plutôt tendance à fuir l'autre bout de l'appartement. Mais...
C'est vrai que c'est culturel, l'intensité, la oui. force. C'est vrai, moi je ne peux pas écouter de la musique quand ça dépasse un certain seuil.
Oui,
et il semble que ce soit l'inverse pour la génération oui. de nos enfants. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas écouter la musique si ce n'est pas assez fort.
Oui, ça peut provoquer des tensions familiales.
Oui, oui.
Françoise Sagan, nous vous remercions de nous avoir fait l'amitié de venir à Black and Blue. Alain Gerber va lire maintenant, avec votre accord, de larges extraits de Billie Holiday, le chapitre 1 de ce si beau livre, avec mon meilleur souvenir.
À peine débarqués aux pierres, le seul hôtel que je connusse, puisque c'était là que m'avait cantonné mon fastueux éditeur pour ma première visite, nous demandâmes, nous réclamâmes, nous exigeâmes Billie Holiday. Nous l'imaginions triomphant comme d'habitude au Carnegie Hall. On nous apprit avec mille mines confites et confuses la chose suivante, qui maintenant ferait se tordre de rire tous les directeurs de musicals au monde. Madame Billie Holiday, ayant dernièrement pris quelques stupéfiants en scène, était interdite de représentation à New York pour quelques mois. L'Amérique était encore en 56 bien puritaine dans ses formes et bien rancunière, si j'y pense. Bien rancunière, puisqu'il nous fallut 3 jours pour savoir que Billie Holiday chantait dans une boîte du Connecticut. Dans le Connecticut, qu'à cela ne tienne, taxi, nous allons dans le Connecticut. Le Connecticut ne correspondait pas aux Yvelines comme nous l'imaginions et nous fîmes près de 300 kilomètres dans un froid glacial avant d'entrer, Michel Magne et moi, dans un endroit extravagant, perdu ou qui me parut tel, le genre de boîte de country music avec un public peu brillant, bavard, braillard et agité. De nous vîmes soudain surgir une femme noire et forte, longue, avec des yeux fendus qu'elle ferma un instant avant de se mettre à chanter et de nous faire chavirer aussitôt dans des galaxies gaies, désespérées, sensuelles ou cyniques selon son gré. Nous étions au comble du bonheur, nous n'avions rien rêvé de plus. Et je crois que nous aurions refait les 300 kilomètres de retour dans ce froid et dans ce même bonheur si quelqu'un ne s'était brusquement avisé de nous présenter à elle. On lui expliqua que ces 2 petits Français avaient franchi les immensités de l'Atlantique et les banlieues de New York et les frontières du Connecticut dans le seul but de l'entendre. « Oh, dears !» dit-elle tendrement. « Oh, crazy you are !» Nous passâmes 15 jours, ou plus exactement 15 aubes, de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures au midi, dans cette boîte incessamment enfumée, à écouter Billie Holiday chanter. Michel l'accompagnait parfois au piano, ce qui le rendait fou d'orgueil, et quand ce n'était pas lui, c'était l'un des innombrables musiciens, l'un des adorateurs de Billie Holiday, qui, alerté par les 1000 tam-tams du jazz répercutés dans la nuit de New York, rappliquait tous les uns après les autres à une aube ou une ode d'un club ou d'un autre. Côté public, il n'y avait que nous les Français, 2 ou 3 amis de Lady Day et de son mari, son homme de l'époque, un grand type sombre avec qui elle parlait violemment. Du côté scène, il y avait, outre Cozy Cole à la batterie, 20 jazzmen célèbres, plus célèbres les uns que les autres. Jerry Mulligan jouait en duo avec la voix de notre amie, celle qui était devenue notre amie à présent, à travers des flots d'alcool, des éclats de rire, des incompréhensions et parfois des colères tout aussi rapides à naître qu'à disparaître. Notre amie Billie Holiday, qui nous tapotait la tête comme à des enfants et de qui nous séparait, sans que nous en eussions même l'idée, tout un passé tragique, tout un destin terrifiant, toute une vie tumultueuse et violente, mais talentueuse et apte à exaucer ses goûts comme à gommer ses dégoûts, simplement en fermant les yeux et en laissant jaillir de sa gorge cette sorte de gémissement amusé, cynique et si profondément vulnérable, inimitable, le cri d'une personnalité triomphante et despotique, royale dans son parfait naturel, car il n'y avait rien de sophistiqué chez elle, rien d'apparemment compliqué. J'ignorais alors qu'une existence en elle-même pût combler tous les dédales du cerveau le plus renfermé et le plus pervers. J'ignorais qu'elle fût un corps à vif, presque en sang, qui s'enfonçait dans la vie à travers des coups ou des caresses qu'elle défiait, semblait-il, par sa simple respiration. C'était une femme fatale, dans le sens où la fatalité s'en était prise à elle dès le départ et ne l'avait jamais quittée, et ne lui avait laissé comme seule défense, après 1000 blessures et 1000 plaisirs également violents, que cette intonation humoristique dans la voix, cette note bizarrement rauque quand elle était partie très loin ou très bas et qu'elle revenait brusquement à nous par le biais de son petit rire gouailleur et de ses yeux orgueilleux et craintifs. C'est par une nuit noire aussi que je la retrouvais un an ou deux ans plus tard à Paris. J'avais dû lui écrire une fois ou deux pour la remercier, lui demander de ses nouvelles, mais elle n'avait pas répondu. Ce n'était pas quelqu'un à lettres, et c'est par les journaux que je sus qu'elle allait chanter un soir au Mars Club, un passe Marbeuf. J'avais perdu Michel Magne de vue et c'est avec mon mari que j'allais l'écouter. Nous arrivâmes bien avant elle dans cette petite boîte sombre à mille lieues du gigantesque club d'Eddie Condon, plus intime et plus effrayante aussi puisqu'il y avait ce soir-là, même limité à un vrai public. Vers minuit, alors que je piaffais, quelqu'un poussa la porte et entra suivi d'un groupe bruyant. C'était Billie Holiday et ce n'était pas elle. Elle avait maigri, elle avait vieilli. Et sur ses bras se rapprochaient de plus en plus des traces de piqûres. Elle n'avait plus cette assurance naturelle, cet équilibre physique qui la laissait si marmoréenne au milieu des tempêtes et des vertiges de sa vie. Nous tombâmes dans les bras l'une de l'autre. Elle se mit à rire et à l'instant je retrouvais l'exaltation, l'exultation enfantine et romanesque d'un New York déjà lointain. Un New York uniquement voué à la musique et à la nuit comme certains enfants le sont au bleu et au blanc. Je lui présentai mon mari, un peu déconcerté par sa présence à la fois si naturelle et si exotique, Et ce n'est qu'à ce moment-là que je me rendis compte des millions d'années-lumière qui nous séparaient, ou plutôt des millions d'années obscures qui me séparaient d'elle et qu'elle avait si merveilleusement, si amicalement bien voulu gommer pendant ces 15 jours à présent révolus. Tout ce qui avait été écarté de notre première rencontre et qui était le problème de sa race, de son courage, de sa lutte à mort contre la misère, les préjugés, l'anonymat, les blancs et les pas blancs, contre l'alcool, les mauvais ennemis, contre Harlem, contre New York, contre les fureurs que peut provoquer une couleur de peau et celle presque aussi violente que peuvent provoquer le talent et le succès. À tout cela, elle ne nous avait jamais laissé penser. Ni Michel, ni moi, et nous aurions peut-être bien dû y penser tout seuls. Nous, les sensibles Européens, avions été les insouciants barbares de l'histoire. Et cette idée me mit au bord des larmes que la suite de la soirée ne put vraiment sécher. Billie Holiday était accompagnée non plus de son mari, mais de 2 ou 3 jeunes gens, suédois ou américains, je ne sais plus, aux petits soins pour elle, mais semblait-il aussi étranger à son destin que je l'étais moi-même. Admiratifs et inefficaces, ils n'avaient rien organisé pour cette soirée, et il n'y avait même pas, chose extravagante, le moindre micro en vue sur le piano noir où elle s'appuyait déjà, l'air insensible aux applaudissements. Cela fit un bel embrouille à Mini. On se mit à 4 pattes pour arranger le vieux micro qui crachotait bêtement. Quelqu'un courut à la villa d'Est ou ailleurs pour en chercher un autre. Tout le monde s'énerva, s'agita en vain et elle vint s'asseoir au bout d'un moment comme résignée à notre table, où elle se mit à boire distraitement, s'adressant à moi parfois de sa voix rauque, enfumée, sarcastique, tout à fait indifférente à ce qui se passait autour de nous et à son sujet. Elle parla peu à mes amis, sinon pour demander à mon premier mari s'il me battait, ce que, ironique, elle s'exclamait qu'il aurait dû faire à mon grand dame. Mes reproches la firent rire et, durant 1 minute, je retrouvai l'écho de son rire chez Eddie Condon. Quand nous étions tous, semblait-il, si jeunes et si heureux et si doués, quand le micro marchait, ou plutôt, et ça je n'osais pas me le formuler, quand elle n'avait pas besoin de micro pour chanter. Finalement, avec ou sans micro, je ne sais plus, elle chanta quelques airs, accompagnée par un quartet incertain qui essayait de suivre les détours imprévisibles de sa voix, devenue elle aussi incertaine. Mon admiration était telle, ou la force de mes souvenirs, que je la trouvais admirable malgré l'imperfection terrible et dérisoire de ce maigre récital. Elle chantait les yeux baissés, elle sautait un couplet, reprenait son souffle difficilement. Elle se tenait au piano comme un bastingage par une mère démontée. Les gens qui étaient là étaient venus sans doute dans le même esprit que moi car ils l'applaudirent frénétiquement, ce qui lui fit jeter vers eux un regard à la fois ironique et apitoyé, un regard féroce en fait à son propre égard. Ces quelques couplets, elle vint s'asseoir un instant avec nous, vite, très vite, car elle repartait le lendemain, je crois, pour Londres, où elle ne savait plus où, en Europe. De toute manière, darling, me dit-elle, you know I'm going to die very soon in New York between 2 cops. Très bientôt, je vais mourir à New York entre 2 flics. Je lui jurai que non, bien entendu, je ne pouvais pas, je ne voulais pas la croire. Toute mon adolescence bercée par sa voix, fascinée par sa voix, refusait de la croire. Aussi fus-je tout d'abord stupéfaite, quelques mois plus tard, en ouvrant le journal, de voir que Billie Holiday était morte la nuit d'avant, seule, dans un hôpital,
entre deux flics.
Not much to look at, nothing to see. I'm glad I'm living and I'm lucky to be. But I've got a man crazy for me. He's funny that way. Ain't got a dollar, can't save a cent. He doesn't holler, he'd live in a tent. I've got that man mad about me. He's funny that way. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can't see no other way. And no better plan. End it all and let him go to some other gal. But I'm only human, a coward at best. I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me. He's funny that way.
C'était Black and Blue, mise en page de Perrine Minguy, prise de son de Marie-Dominique Bougot. Aujourd'hui, la revue de presse dont l'invité était Jean-Luc Wachthausen du Figaro, puis Billie Holiday et le jazz, quelques affections musicales de Françoise Sagan avec Françoise Sagan elle-même, et à propos de son ouvrage « Avec mon meilleur souvenir » paru récemment aux éditions Gallimard. Au revoir à tous.
C'était Black and Blue, diffusé le 19 juin 1984, l'émission de jazz de France Culture de Lucien Malson et Alain Gerbert, consacrée à Billie Holiday. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission éternellement à la page des nuits de France Culture.